Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous et c'est reparti, ravi de vous retrouver. On est ensemble tout au long de cette année 2024 pour vous présenter toujours plus d'innovations, de solutions pour une meilleure qualité de vie au travail. Et on commence dans ce premier numéro avec cette question: comment accompagner l'égalité parfaite entre les salariés? On en parle avec la DRH de la semaine, Stéphanie Madinier du groupe Barilla. L'égalité entre les hommes et les femmes, on va aussi en parler avec vous Jeanne, ce sera le coup de fil à l'expert.
Oui, bonjour Erwan, aujourd'hui c'est Valérie Memounayat qui répond à la question d'un manager qui n'a pas eu son poste à cause des quotas hommes-femmes. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Dans notre focus, on parlera des priorités RH de cette année 2024, sans oublier en fin d'émission la carte blanche d'Adeline. L'année commence mal pour la RH puisque tous les salaires de l'entreprise ont fuité. Alors pour se remettre de tout ça, on terminera avec une petite séance de méditation dans le labo RH avec le fondateur de Petit Bambou. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Faire en sorte que l'égalité soit respectée dans son entreprise, voilà le combat de tout bon DRH. Bonjour Stéphanie Madinier.
Bonjour Erwan.
Merci d'être sur BFM Business, vous êtes la DRH du groupe Barilla pour l'Europe de l'Ouest. Barilla en France, je rappelle que ce sont 4 marques, Harris, Vasa, Moulino Bianco, Barilla. Je crois que les futurs parents qui vont vouloir en tout cas venir travailler chez vous, puisque vous avez instauré au 1er janvier, donc là ça vient de se faire, il y a quelques jours, 12 semaines de congé parental pour tous vos salariés, les hommes comme les femmes.
Exactement. On garantit en effet à chacun de nos salariés qui va accueillir, adopter ou accueillir un enfant, donc naissance à partir du 1er janvier, on garantit 12 semaines minimum de congé parentalité. Et donc c'est essentiellement en France une avancée pour le deuxième parent, le coparent. C'est souvent le papa, parce que là on est bien au-delà du congé paternité puisqu'on est à 12 semaines payées 100%.
Et pourquoi est-ce que vous allez justement au-delà des obligations légales, puisque là on est clairement au-delà de ce que vous devez faire, vous en tant qu'employeur?
Tout à fait. Parce que ce qui est important pour nous au sein de Barilla, c'est déjà d'une part, c'est de le bien-être de nos salariés et l'arrivée d'un enfant dans un foyer, c'est un événement très important. On veut donc que nos salariés, ils aient un temps serein avec leur enfant pour accompagner cette arrivée. Et ça, on veut que ça soit la même chose pour le premier parent et pour le deuxième parent. C'est pour ça que pour nous, l'égalité des tâches à la maison dans ce moment-là, c'est important. Et l'autre point très important, c'est qu'on s'adresse à tout type de famille. Donc là, il y a vraiment une volonté d'être inclusif, donc tout type de famille, on fait pas de différence de genre, voilà. Donc on s'adresse à tout le monde.
Ouais. Bon, on sait que la famille bouge, évolue,
exactement.
Les mœurs changent aussi, donc il faut aussi s'adapter du côté des entreprises, des employeurs. Jusqu'à maintenant, le congé paternité, c'était quoi? C'était une dizaine de jours?
C'est 10 et puis maintenant c'est 4 semaines.
Maintenant c'est 4 semaines. Vous avez aussi un index, parce que là on est sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, index parité femmes-hommes, qui est quand même à créer des complexes dans un certain nombre de boîtes, puisque votre score c'est 99%. Comment vous faites?
Alors, je crois déjà que c'est le résultat de notre culture, de nos valeurs, et c'est surtout le résultat des actions qui sont portées depuis de nombreuses années par l'ensemble des salariés. Chez nous, en fait, la politique égalité, diversité, c'est pas quelque chose de décrété, c'est quelque chose de porté par l'ensemble des salariés, et ça depuis longtemps, c'est vraiment dans l'ADN de la boîte. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a 99 et peut-être demain 100.
Oui, qu'est-ce qui manque pour arriver à 100%?
Il manque pas grand chose et puis voilà, j'espère que ça arrivera, mais en tout cas voilà,
2024, c'est vraiment peut-être.
Voilà, exactement, mais c'est vraiment le résultat de nos valeurs.
C'est un travail de chaque jour,
c'est vivre au quotidien en fait, c'est ça. Et
typiquement, sans entrer dans trop de détails, mais quels sont les dossiers que vous allez traiter pour atteindre un tel score?
Bah, par exemple, vous voyez là ce qu'on fait sur le congé coparentalité, c'est typiquement travailler sur le bien-être des salariés, qu'ils puissent préparer sereinement l'arrivée d'un enfant, qu'ils puissent vivre sereinement leurs 12 semaines et que quand ils reviennent au travail, eh ben ils se sentent bien aussi. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas les chiffres pour les chiffres, mais c'est vraiment le bien-être, l'égalité, vie pro, vie perso. C'est ça qui est important pour nous.
Dans la promotion aussi, faire en sorte que il y ait autant d'hommes que de femmes.
Exactement.
Dans le management.
Dans le management. Alors au sein du comité de direction de Western Europe, il y a 60% de femmes. Donc en tout cas, oui, on fait vraiment attention à chaque catégorie. Et c'est vrai que là aussi, c'est naturellement aujourd'hui que tout le monde peut être promu. Ça va pas être un problème pour nous de promouvoir une femme alors qu'elle est même encore en congé maternité et de lui dire voilà, on t'attend quand tu reviens, tu as le poste, voilà.
Ah ça, on en avait parlé dans une précédente émission l'année dernière pour le coup dans Happy Boulot, et c'est vrai que c'est quand même encore un gros sujet dans beaucoup d'entreprises. Ça se passe pas souvent.
On a fait ça à plusieurs reprises.
C'est difficile à mettre en place. Vous, depuis votre siège de DRH. Est-ce que vous avez le champ libre pour avancer sur ces dossiers ?
Alors, déjà oui, j'ai notamment le sentiment d'avoir le champ libre, mais je pense que plus que le champ libre, je pense vraiment comme c'est porté par chacun, si vous voulez, j'ai envie de dire, c'est naturel, quoi. C'est vraiment, c'est l'ADN de la boîte, c'est l'atmosphère de la boîte, et c'est quelque chose que l'on vit au quotidien et que chacun vit au quotidien. On a l'habitude de dire que chez Barilla, voilà, ce qui est important pour nous, c'est que les salariés se sentent bien, qu'ils viennent avec la banane le matin, et puis qu'ils aient envie d'évoluer dans la boîte, et surtout qu'ils se sentent eux-mêmes, quoi. On dit venez, mais venez comme vous êtes, quoi. L'important, c'est d'être soi-même.
Là, c'est McDonald's, mais vous, c'est Barilla.
Ouais.
Il y a le moyen de savoir si ça convient aux salariés, parce qu'on parle beaucoup des entretiens annuels. On est dans cette période aussi, là, début d'année.
Tout à fait, ouais.
Avoir un échange avec les collaborateurs, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'il y a, au-delà de ce rendez-vous annuel, d'autres possibilités de discuter, de dialoguer ?
Alors, on a une culture du feedback qu'on essaye de rendre même de plus en plus importante. Donc, le feedback, c'est tout le temps, c'est tous les jours, c'est tout au long de l'année, c'est surtout pas que l'entretien. Et puis, on a aussi régulièrement aussi des enquêtes, notamment tous les deux ans, on a ce qu'on appelle l'enquête Diversity and Inclusion, où on mesure aussi justement de manière anonyme la température sur tous ces sujets.
Les prochains chantiers pour l'égalité entre les salariés, vous savez déjà là ce qui sera peut-être la priorité pour cette année ?
Alors, on veut faire un focus sur tout ce qui est handicap, même si on a déjà plus de 8% de nos salariés qui ont un handicap, enfin une reconnaissance handicap. On veut aller plus loin là-dessus. Voilà, on a déjà fait pas mal de choses, mais on peut être encore meilleur. Et ça, c'est un vrai sujet.
Stéphanie Madini, il nous reste une minute pour savoir quel manager et DRH vous êtes. On vous amène tout de suite, c'est Corentin, avec sa boîte du DRH. Je vous invite à piocher deux papiers, des phrases à compléter pour mieux vous connaître.
Alors, dans ma boîte, je sensibilise les collaborateurs à toutes les formes de discrimination qui peuvent exister.
Ça, c'est une réponse qui revient souvent chez les DRH. Parce que vous êtes confronté aussi à ces questions-là.
Exactement. Ouais. Parce que chez Barilla, c'est aussi le reflet de la société civile. Donc, bien sûr, il faut sensibiliser. Il ne faut pas se dire que ce qui arrive ailleurs, ça n'arrivera pas chez nous. Donc, il faut sensibiliser.
Et un cas de discrimination, c'est difficile à traiter quand on est au courant qu'il y a une discrimination.
Oui, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et puis, il y a toujours à la fois les personnes concernées, puis à la fois l'entourage. Ouais. Donc, il faut faire très attention. Ouais.
Ça, c'est une première réponse. Je vous laisse piocher un dernier papier.
Dans ma boîte, les managers sont... Alors, ils sont engagés, mais engagés, je pense, au sens large du terme. C'est-à-dire qu'ils sont engagés sur des sujets au-delà de leur propre job. On aime les gens engagés qui sont engagés sur des sujets sociétaux. Et puis, ils sont entrepreneurs, je crois, entrepreneurs et innovants et à l'écoute. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir joué
le
jeu et merci d'avoir été avec nous, Stéphanie Madinier, DRH du groupe Barilla pour l'Europe de l'Ouest. Tout de suite, on vous retrouve, Jeanne, pour appeler notre expert, les questions d'auditeurs.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat, pour répondre à cette question. Je suis manager depuis 8 ans dans ma boîte. On m'a promis un job super intéressant en septembre. Au dernier moment, une collègue a été promue et la DRH m'a dit « Tu étais plus compétent et soutenu en interne, mais il nous fallait une femme. » Mon N+1 me dit qu'il n'a pas eu la main. Dois-je réagir et comment ?
Alors, votre question, elle est très intéressante et elle est très contemporaine de ce que l'on rencontre aujourd'hui comme problématique, on va dire un peu inversée avec le recul. Est-ce que vous devez réagir d'abord, comment est-ce que vous avez vécu ce rejet qui est clairement, clairement discriminant ? La question de la discrimination, elle se pose également contextuellement, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une entreprise où il y a peu de femmes promues ? Est-ce que vous êtes dans une entreprise qui a mis en place tous les outils permettant de lutter contre les discriminations au travail, pour les femmes comme pour les hommes ? Donc, oui, pour moi, vous devez réagir. La forme de la réaction dépend en revanche de la publicité que vous voulez donner à votre insatisfaction. Soit elle est formelle, et vous allez saisir une des instances, un référent harcèlement, discrimination dans votre société, soit elle est juste managériale, et vous demandez des explications complémentaires à la DRH et à votre N+1. Et puis vous réfléchissez à votre souhait de rester en fonction ou de mieux comprendre les éléments qui jalonnent aujourd'hui l'égalité homme-femme dans les entreprises.
Voilà, écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le focus RH.
Et comme promis pour ce premier numéro de l'année, on vous dévoile les 5 priorités RH de 2024, en tout cas celles qu'on a décidé de retenir avec nos deux invités. Yannick Mercieris, bienvenue Yannick.
Merci,
bonjour. Bah oui, bienvenue dans Happy Boulot.
Ouais, bienvenue début de l'année, c'est pour ça que je me souhaite bienvenue aussi sur le plateau.
Exactement, mais vous avez raison. Et on a l'occasion de vous voir aussi dans cette émission à travers la carte blanche. Cette fois-ci, vous êtes avec nous en plateau, Yannick. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de The Daily Soil et avec nous également Nolwenn Pigot.
Bonjour.
Bonjour Nolwenn, vous êtes directrice marketing tech data chez Golden Bees Figaro Classified. Votre mission, mettre les RH au cœur de nos entreprises. Et pour 2024, vous avez donc identifié quelques priorités qu'on a décidé de reprendre dans cette émission et que nous allons détailler tout de suite. La première, la gouvernance. Capitale en 2024, il faut revoir, peut-être changer aussi de posture quand on est dans les RH sur cette question de la gouvernance ?
Complètement, parce qu'en fait, on se rend compte que les RH, ils sont soit dans une posture d'acceptation ou d'opposition avec des complexités autour du budget. Ils doivent adresser des bassins d'audience en pénurie, ils doivent gérer les directeurs, ils doivent gérer les managers qui doivent recruter des profils spécifiques et ils doivent faire leur travail. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais. Ils doivent être intégrés finalement dans une organisation un peu globale et ils ont un rôle clé à jouer finalement pour que le recrutement se passe bien.
Ouais. Donc, voilà. Et ils sont aussi au cœur de la stratégie business de l'entreprise. Comme ils sont... garant, enfin toute entreprise a pour vocation de faire de la valeur, de créer de la valeur. Qui crée de la valeur ? Les collaborateurs. Qui gère les collaborateurs ? Les RH. Donc si on veut avoir une bonne performance économique, il faut une bonne performance, on va dire, sociale. Ouais. Et c'est en ça que les RH ont un rôle prépondérant, important dans la création de valeur et donc dans le business aussi. On l'oublie souvent.
À travers le feedback aussi, dont on parle beaucoup dans cette émission, c'est aussi la mission des managers et des RH. Il faut insister encore plus là-dessus.
Le feedback, oui, mais au global, toute la transparence et un peu de pédagogie sur les métiers. On dit souvent RH, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a des métiers RH avec plein de spécificités. Et ça, il faut aussi savoir le redescendre ou le faire comprendre à chacun. Et ça, c'est hyper important.
Sur la gouvernance, tu as raison, c'est le sujet en fait du central. Comment est-ce que le central va se nourrir du terrain et comment est-ce que le terrain va venir nourrir du coup le central qui doit apporter une vision. Et souvent, sur le problème du métier du RH, c'est que c'est quelque chose de très généraliste. Ils ont plein de tâches à faire et c'est là où la gouvernance redevient importante pour savoir trier, prioriser, organiser tout ça et que ce soit tout simplement opérationnel au quotidien.
Et on en vient justement à la deuxième priorité RH pour cette année 2024, impliquer les managers. Pour qu'ils soient aussi capables de faire tout ça, ils ont leur rôle à jouer dans plein de choses. La qualité du recrutement, on en a aussi beaucoup parlé en 2023. Comment faire des bons recrutements ?
Déjà, le manager, c'est celui qui va accueillir le collaborateur pour faire un métier spécifique. Donc, si ça lui va pas, déjà, ça va pas marcher. Donc, le recruteur, son boulot, c'est de faire en sorte que les CV qui vont arriver dans l'entreprise correspondent au profil attendu pour que l'entretien se passe bien et pour que le collaborateur puisse trouver ses marques. Donc, s'il y a un problème déjà sur l'offre d'emploi, parce que le manager est pas d'accord ou que ça lui va pas à la fin quand il reçoit la personne.
Donc, il faut la concertation.
Exactement. Et on revient au sujet de la gouvernance, c'est-à-dire partage d'informations au-delà de la hiérarchie. hiérarchisation des projets. Si jamais on s'entend finalement sur le profil, bah déjà on est sûr de ne pas être déçu. Et autre chose importante, ça permet après, quand on travaille la stratégie de recrutement, de s'ouvrir à des profils différents. Parce que si on recrute un commercial par exemple, on peut très bien cibler un profil commercial, mais on peut aussi s'ouvrir à des gens qui sont en reconversion et qui feront très bien le job. Donc ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire à la personne, et après ça se fera naturellement.
Yannick ? Et l'autre point important aussi, c'est que ça responsabilise énormément le manager. Souvent on a tendance à se renvoyer la balle. C'est vrai. C'est un bon recrutement, un mauvais recrutement. Là, si tout le monde est dès le début dans le wagon et qu'on dit bah ok, on va là-dessus, on part là-dessus, et surtout, comme tu l'as dit, c'est le manager finalement qui va gérer cette personne. Et c'est pas le RH, c'est pas le recruteur. Donc c'est hyper important que le manager soit rapidement dans le process et potentiellement dans la prise de décision aussi globale. C'est même prioritaire.
Responsabilité partagée.
Troisième priorité pour 2024, est-ce qu'on ne capitaliserait pas davantage sur la donnée ? On va parler un peu plus tard d'intelligence artificielle, mais déjà savoir dans quoi on doit investir, à quel moment il faut le faire, quand est-ce qu'on doit recruter ou pas recruter ? On a besoin d'avoir de la donnée.
La data, en fait, c'est souvent un gros mot, alors que c'est primordial. La data, c'est ce qui va nous aider à prendre une décision. En fait, et ça doit pas remplacer l'humain, comme on pourrait en parler sur l'intelligence artificielle, mais la data, en fait, c'est un Excel qui va nous aider à prendre une décision, qui va nous aider à suivre une intuition ou non. Comment on fait pour battre un Excel quand on est face à son DAF, qui lui a un Excel avec plein de chiffres, c'est super, mais ça manque un peu d'humain. Dans RH, il y a humain, c'est vrai, c'est important, mais si on ajoute de la data, on va avoir une prise de décision qui va être beaucoup plus forte.
Nolwenn, sur la donnée.
Bah complètement. Et puis alors, la data déjà, c'est une pièce d'information. Déjà, rien qu'un CV, c'est de la data, donc il faut pouvoir l'analyser. Hein. On le parlait tout à l'heure sur la qualité. Et l'autre chose, c'est de toute façon, la fonction RH, elle est déjà cartésienne par nature. C'est une fonction qui est quand même assez administrative et tu le disais, très rattachée à la finance de base et qui est devenue de plus en plus business, donc qui doit répondre aujourd'hui à des enjeux de ROI, de KPI. Donc de toute façon, on y est déjà. On ne peut pas faire sans data aujourd'hui dans le monde des RH. Et en plus, il y a plein d'entreprises qui se sont spécialisées dessus, soit pour apporter de la réponse sur de l'optimisation publicitaire, soit sur des budgets de formation. Donc on est obligé de monétiser aujourd'hui les actions qui sont faites.
Et de le faire de plus en plus.
Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, la réalité qu'il faut se poser finalement quand on est recruteur et face, comme tu dis, au tableau Excel, aux contraintes de la vie, c'est dans la contrainte aussi que naît la liberté, c'est de se dire en fait, à quel résultat je veux aboutir, et après on met en place la stratégie de moyens et on teste. On teste et si jamais ça va pas, ça sert à ça aussi, les analyses, c'est on teste autre chose.
Et in fine, la data redonne plus de pouvoir au RH.
Ouais, c'est vrai.
C'est intéressant.
Ça marche. Ça, il faut bien. Ils ont écouté. Les RH qui regardent et qui écoutent Happy Boulot. Numéro 4, améliorer l'expérience candidat. Faire en sorte, mais ça, on le dit tous les ans, mais est-ce qu'on y arrive vraiment ? Pas toujours. Faire en sorte que le candidat ne se sente pas un numéro. Surtout aujourd'hui, quand on peut postuler sur LinkedIn, typiquement, parfois, on a sur une annonce 1000, 2000, 5000 candidats. Qui vont pas avoir de réponse, de retour s'ils sont pas sélectionnés. Comment on fait pour améliorer cette expérience candidat ?
Ça déjà c'est fondamental et je dirais que c'est quelque chose de primordial parce que si l'expérience candidat est ratée, tout ce qu'on vient d'évoquer, la data, la gouvernance, le machin, ça va pas fonctionner. Donc déjà c'est réglé. Déjà, c'est compliqué de personnaliser quand on veut faire de l'acquisition. On peut avoir des messages bien travaillés par rapport à des cibles, ça c'est déjà très important, mais ce sera compliqué que ce soit vraiment individualisé. En revanche, ce qui ne doit pas être loupé, c'est que la promesse sur les messages marque employeur et sur l'offre d'emploi, elle doit se retrouver impérativement au moment des entretiens, de l'onboarding et après de la vie.
Il ne faut pas que ce soit que du marketing, quoi.
Exactement. En fait, c'est un équilibre pour à la fois être se différencier en tant qu'entreprise, réussir à avoir des candidatures de qualité, réussir à avoir des profils intéressants, mais surtout après les garder aussi, parce que le problème c'est que parfois on va dire qu'un CV ou un profil n'est pas de qualité parce qu'en fait on n'a pas réussi à le garder. Il y a le turnover aussi qui peut être analysé a posteriori. Donc tout est lié et il y a un vrai problème aujourd'hui sur la personnalisation et je finirai sur l'alignement aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Yannick, l'alignement entre tous les points de contact qu'on peut avoir avec le futur candidat / collaborateur.
Ça fait partie de l'expérience recrutement aussi, qui nous permet d'être en phase avec ce qu'on va avoir, mais pour éviter l'écueil d'avoir 5000 candidatures, déjà, si on filtre mieux, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de transparence dans l'annonce, par exemple, du salaire,
de
plein d'autres choses. Et ça aide, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je postule, je postule pas.
C'est une tendance confirmée.
Et puis aussi, peut-être d'autres techniques de recrutement, plutôt que d'aller chasser, simplement d'être désirable. Il y a ce qu'on appelle le lead band recruitment. recruiting, c'est-à-dire le fait d'être visible sans forcément chasser. Et ben ça permet d'avoir du contenu plus ou moins personnalisé et de se dire, ok, cette boîte, elle est sympa et ça évite certaines erreurs comme le panic hiring, en fait, le fait de dire, bon, moi, j'ai besoin de recruter dans la va-vite et finalement, je recrute pas bien.
Allez, il nous reste moins de 2 minutes. On termine, bien sûr, avec l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé en 2023. Comment est-ce qu'on l'assimile en 2024, quelles sont les entreprises qui doivent la développer aussi les compétences RH autour de ces sujets-là. Il y a peut-être des entreprises aussi qui n'ont pas besoin en 2024 de l'intelligence artificielle, non? Ça va dépendre vraiment du secteur.
Je pense qu'il faut se poser la question de où est-ce que l'IA peut me servir pour automatiser et mieux faire des tâches, parce qu'on confond souvent le métier et la tâche. Le métier de RH, il est beaucoup trop complexe pour être confié, comme tu sais, c'est humain avant tout, à un IA. En revanche, la rédaction des offres d'emploi, la préqualification, le fait de créer des modèles automatisés de travail, ça, pour le coup, on peut le confier à l'IA. Et si en plus on lui donne des bases de données justement qui vont être apprenantes et qui vont faire que ce sera personnalisé pour l'entreprise, ça fera gagner du temps au RH.
Yannick, aujourd'hui, c'est une étude Gartner qui nous dit que seuls 5% des leaders RH utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Ça sera sûrement plus à la fin de l'année.
En réalité, on utilise tous déjà l'IA depuis très longtemps. Là, cette semi-révolution, c'est qu'on a eu ChatGPT, c'est tout. Mais sinon, l'IA, le tri de CV, c'est de l'IA. L'IA, ça reste un outil, en fait. L'IA, c'est une aide intelligente. L'objectif de ça, comme pour la data, comme pour l'intelligence artificielle, le RH, les métiers, les fonctions RH doivent se servir de l'IA, et tout le monde, je pense, pour faciliter son travail et prendre de temps, en fait, utiliser la data, utiliser l'IA pour avoir plus de temps à passer avec l'humain. L'IA, c'est un outil créé par l'humain, donc forcément biaisé.
C'est à ça que ça doit servir. C'est vers ça qu'il faut aller.
Ouais. L'IA, ça doit, surtout pour finir, ça doit répondre à des objectifs. Tu parlais de la préqualification. Ouais. On peut très bien avoir des outils aujourd'hui qui permettent de mieux travailler la qualification des candidats.
En 10 secondes, on l'a pas mis parce qu'on n'avait pas le temps, mais vraiment en 10 secondes, Yannick, la santé mentale, c'est aussi déjà en 2023 un gros sujet. Va falloir voir aussi les boîtes qui tiennent et celles qui s'arrêtent, parce qu'il y a de tout aujourd'hui quand on parle de santé mentale.
La santé mentale, c'est primordial et c'est un enjeu business aussi. Parce qu'avoir des gens en bonne santé, la définition de la santé de l'OMS, c'est le bien-être physique, mental et social. Donc quand on prend soin des gens avec lesquels on travaille, forcément on a directement derrière une rentabilité. C'est affreux à dire, mais finalement c'est ça, c'est de se dire, quand on investit dans la santé mentale, c'est un ROI qui est toujours positif. 1, 3, 4, 5, 6, il y a plein d'études.
Et on parlera tout à l'heure de méditation avec Petit Bambou. On va avoir le fondateur à votre place. On parlera aussi de ça avec lui. Merci beaucoup Yannick Marciris, directeur de la rédaction Daily Swile, et Nolwenn Pigot, experte marketing tech et data chez Golden Bees, Figaro, Classify. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et Adeline, première crise de l'année à gérer pour la RH, les salaires ont fuité.
Ouais. Comment ça, les salaires ont fuité? Impossible. La grille complète? Non, c'est une rumeur. Ah ouais, si vous êtes si malin, moi je touche combien? Bichette, tu sais pas comment les salaires ont fuité, toi? À la stagiaire Gen Z. Mais Bichette, mais la Gen Z, mais t'es teubée ou quoi? Ils veulent détruire le capitalisme et les tabous corporate, ils sont pour la transparence! Bien sûr que c'est elle qui a envoyé le fichier!
Happy Boulot, le labo RH.
C'est avec vous désormais aussi, Jeanne Spicarolène, en ce début d'année.
Eh oui.
On vous retrouve et c'est un plaisir en cette fin d'émission, en 4 minutes, avec notre invité aujourd'hui, Jeanne, c'est le fondateur de Petit Bambou.
Oui, Petit Bambou, c'est l'application leader de la méditation en pleine conscience. Elle compte 11 millions d'utilisateurs, présente dans 40 pays, 6 langues différentes. Bonjour Ludovic Dujardin.
Bonjour.
Vous êtes président et cofondateur de Petit Bambou et vous lancez une offre en B2B pour les entreprises. Comment ça fonctionne?
Alors en fait, ça fait longtemps qu'on travaille avec les entreprises. Il y a plus de 200 entreprises qui travaillent avec Petit Bambou. Et c'était un sujet qui n'était pas si simple que ça pour nous à adresser, parce que en fait, on pense vraiment que les gens doivent construire leur bonheur depuis leur intériorité et faire ce chemin par eux-mêmes. Et on s'est demandé quel rôle pouvait avoir l'entreprise là-dedans, ou quel intérêt pour avoir l'entreprise à promouvoir ça. Et puis finalement, la demande est telle, et on a constaté qu'il y avait quand même pas mal de souffrances aussi, notamment au niveau de la gestion des émotions, du stress, la quête de sens en entreprise. Et la méditation pouvait être un très bon outil pour améliorer ça. Bon. Et, Et donc du coup, on a développé une offre que vous pouvez retrouver sur le site, qui s'appelle pro.petitbambou.com, et qui permet tout simplement aux entreprises de souscrire des licences Petit Bambou et d'avoir un accompagnement personnalisé.
Et en quoi, Ludovic Dujardin, pour qu'on comprenne bien, cette offre, elle est adaptée aux entreprises? C'est la même solution que quand on télécharge Petit Bambou, nous, sur notre téléphone directement, ou il y a des choses en plus? Enfin, quelle est la spécificité?
Alors, on a évidemment accès aux mêmes choses que tout à chacun dans l'application. Donc, l'ensemble des programmes de méditation, il y a plus de 1300 séances de méditation.
Et en fait, c'est l'entreprise qui est cliente, c'est ça, et qui paye pour les collaborateurs.
Absolument. Et puis on fait aussi un accompagnement personnalisé, parce que souvent les entreprises ont besoin de conférences, d'explications, un peu de pédagogie sur ce que c'est que la méditation, ce que les gens peuvent en attendre, ce qu'ils ne peuvent pas en attendre, et donc pour pouvoir déployer cette solution harmonieusement au sein de l'entreprise.
Donc grâce à Petit Bambou, on améliore donc la santé mentale des collaborateurs, mais on peut aussi améliorer les rendements d'une entreprise. Le coût des maladies mentales peuvent aller jusqu'à 2% du PIB, 25 milliards d'euros. C'est un investissement, en fait. Est-ce que c'est ce que vous dites aux entreprises lorsqu'elles achètent vos services?
Alors moi, non, j'aime pas trop dire ça, et j'aime pas trop dire que l'entreprise améliore la santé mentale de ses employés. Je préfère dire que l'entreprise propose aux employés une solution, et c'est les employés eux-mêmes qui améliorent leur santé mentale et qui améliorent leur façon d'être, leur façon d'interagir dans l'entreprise. Ensuite, comment on mesure ça sur la rentabilité et sur les entreprises? Je sais que le monde de l'entreprise adore ses KPI, adore pouvoir valoriser ça pour justifier un investissement, et c'est assez compliqué quand on parle d'humain, en fait, de faire ça. Et donc je préférerais que les entreprises se disent, les gens viennent exercer une fonction dans mon entreprise, mais viennent aussi interagir avec d'autres personnes, viennent avec leur humanité, viennent avec qui ils sont, viennent avec leurs émotions, et mieux et plus ça est géré harmonieusement par chaque personne, évidemment plus les contacts entre les gens ou les collaborations ou l'innovation, la créativité, tout ça sera fluide, et ça se mesure pas forcément, mais effectivement il y a plein d'études qui tendent à prouver que les coûts d'une mauvaise santé mentale, d'une non-harmonie de ça, sont absolument exorbitants.
Mais Petit Bambou, vous travaillez déjà avec un certain nombre d'entreprises, deux pour en citer, Accenture dans le conseil, qui habite dans la mode. Vous avez déjà des retours pour savoir si oui ça fonctionne, si oui les collaborateurs sont satisfaits?
Absolument, les retours sont hyper dithyrambiques. Ouais, en fait, il n'y a pas de...
Donc des nouveaux clients en 2024?
On a une société qui est un peu étonnante, parce que c'est une société qui fonctionne très bien, et donc du coup je cherche pas absolument à avoir de nouveaux clients. Je suis pas du tout en mode chasseur de clients. Par contre, tous ceux qui veulent être accompagnés, évidemment, on essaie de faire en sorte de les accompagner le mieux possible, parce que créer de l'harmonie dans l'humain, dans l'entreprise, on trouve que c'est quand même une mission assez noble.
Il faut du temps, juste pour terminer, mais pour utiliser cette application au travail, ou l'idée c'est de l'utiliser chez soi ou en venant au travail, est-ce que l'employeur doit aussi dédier ce temps pour faire de la méditation quand on est au bureau?
Chacun fait à sa façon. Ouais. Ça. Je trouve que imposer aux collaborateurs de méditer entre telle heure est assez contre-productif. Par contre, dédier des slots horaires de méditation dans lesquels les employés peuvent,
ça
et non pas doivent,
plus en plus. Ouais.
Le faire, peuvent le faire. Là, je trouve ça intelligent. Mm-hmm. Et comme ils repartent avec Petit Bambou, c'est toujours dans leur poche, ils repartent chez eux avec, si les gens considèrent que ça leur fait du bien, ils peuvent continuer aussi sur leur temps personnel.
Donc on demande un devis si on est une entreprise pour savoir combien ça nous coûte, et c'est parti, on signe.
Exactement, on a fait ça très simplement d'ailleurs. On peut faire ça en ligne. Alors évidemment, si vous avez 100 000 employés qui veulent méditer, appelez-nous. Ouais. S'il y a 3, 4
vous
personnes, c'est hyper simple.
Voilà. Merci beaucoup, Ludovic Dujardin, président cofondateur de Petit Bambou, d'être venu dans Happy Boulot. Merci Jeanne. À la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission, bien sûr, ça ne change pas, en 2024, en replay, en podcast, dès à présent sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban qui sont aux manettes en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, essayez d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.